Le groupe de Tarnac ne sera pas condamné pour terrorisme. La Cour de cassation a abandonné définitivement hier cette accusation contre Julien Coupa et les 7 autres militants poursuivis. Ils seront donc jugés devant un tribunal correctionnel pour avoir dégradé des lignes de TGV en 2008. L'avocate Marie Dosé défend deux des interpellés. Cet abandon de la qualification terroriste, pour elle, ce n'est que le point d'orgue d'une affaire pleine d'erreurs et de manipulations politiques.
Vous êtes là face à une affaire judiciaire marquée du sceau de l'instrumentalisation politique de la justice. Soyons très clairs. C'est-à-dire que cette affaire commence parce qu'un certain gouvernement et une certaine gouvernance veulent démontrer que l'extrême gauche est aussi dangereuse que l'extrême droite. Et je vous demande de vous rappeler tous que l'interpellation des uns et des autres s'est faite dans des conditions lamentables, avec caméra de télévision, TF1, Michel Alliomari au cœur de Tarnac, qui commentait finalement les opérations en direct des interpellations. Et cela a commencé comme ça, par une instrumentalisation de la justice par le pouvoir politique. Et près de 10 ans après, nous sommes réduits à une peau de chagrin et nous démontrerons devant la juridiction correctionnelle que ces personnes-là sont innocentes.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Personne n'a oublié ce 11 novembre 2008 où, devant les journaux télévisés du soir, la France éberluée se découvrait un terrible ennemi de l'intérieur. Une grosse dizaine de jeunes gens arrêtés à l'aube avec un déploiement de forces de police peu fréquent dans un petit village de Corrèze, certains d'entre eux incarcérés, inculpés d'associations de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Personne n'a oublié non plus qu'au fil des mois, la police, la justice et les politiques qui nous avaient survendu vendu l'affaire de Tarnac, se sont retrouvés confrontés à des mensonges patents, des preuves défaillantes et des irrégularités de procédure qui ont conduit, en janvier 2017, la Cour de cassation à rejeter définitivement l'accusation de terrorisme. Commencée sous Sarkozy, poursuivie avec Hollande, l'affaire dite de Tarnac trouvera dans un mois, sous Macron, son épilogue judiciaire devant la 14e chambre du tribunal correctionnel de Paris. 8 personnes sont encore poursuivies, certaines pour avoir refusé des prélèvements ADN, et 2 autres accusées d'avoir tenté de saboter des caténaires de lignes TGV. Leur défense plaidera l'acquittement pur et simple, les preuves semblant singulièrement faire défaut. Présenté par la police comme le chef de ce groupe d'amis que la presse assimile plus volontiers au comité invisible, auteur de 3 livres d'analyse politique radicale parus aux éditions de La Fabrique, Julien Coupa sera à nouveau sous les projecteurs. Mais 10 ans après leur apparition à la une de la presse, on ne sait toujours pas vraiment qui sont ces jeunes gens. Bonsoir Julien Coupa.
Bonjour.
Bonsoir Mathieu Burnel.
Bonsoir.
Alors, dans un mois, vous allez vous retrouver finalement devant un tribunal correctionnel. Il n'y a plus de terrorisme en vue. Il y a des dégradations de lignes TGV, il y a des refus de prélèvement ADN, des faux. 10 ans de procédure un peu folle pour en arriver là. Vous en sortez comment les uns et les autres? Julien Coupa, vous qui avez été mis en premier sur le devant de la scène, vous aviez 33 ans quand ça s'est produit, vous en avez 43 aujourd'hui. Comment vous sentez-vous? Il ne dit rien. On peut poser la question, ce que 10 ans de ce type d'accusation, de cette procédure, les mois de prison que vous avez passés, ça change un individu, ça le transforme. Est-ce que ça vous a transformé profondément ou est-ce que, au fond, vous êtes aujourd'hui comme vous étiez il y a 10 ans? Ça semble assez impossible quand même.
En fait, le plus pénible dans une affaire comme celle-là, c'est simplement la façon dont on vous force à comparaître, en fait. À comparaître devant la justice, à comparaître aussi devant les médias. Et au fond, l'enjeu principal de la lutte, c'est de ne pas se laisser altérer par cette contrainte d'apparaître, qui est pour nous absolument pas naturel, comme vous vous en rendez compte.
Oui, bien sûr. Mais ne pas se laisser altérer. On a beau dire, on a beau s'armer, on a beau se dire, c'est possible. C'est une aventure qui laisse des traces. Enfin, 10 ans, en 10 ans, les gens changent dans la vie normale. J'imagine qu'en 10 ans, ça vous a laissé une empreinte comme une cicatrice.
En fait, souvent, on envisage les arrestations, les gardes à vue, la détention comme une opération sur des corps. Parce que les corps, c'est ce qu'il y a de plus visible. Mais en fait, ce sur quoi ça opère, c'est précisément sur des liens. Et lorsque la SDAT commence, en général, sous la forme d'une enquête préliminaire, à travailler, à produire ses premiers PV, à loger des gens, tout ça, leur expression, c'est « on construit en groupe ». On construit en groupe. C'est une belle expression, je trouve. Ça dit quelle est la véritable nature des opérations policières, des opérations judiciaires aussi. On construit un groupe. On fait exister quelque chose sous une forme connue et codée dans les termes du mauvais roman policier qui est en général toute procédure judiciaire.
Alors, effectivement, la façon dont on vous a présenté, elle n'est pas innocente, et je pense qu'il est bon de se le remettre en mémoire. C'était le journal télévisé du 11 novembre 2008, c'est un petit peu long, mais chaque mot est important.
Bonsoir et bienvenue à tous. L'enquête n'a donc pas traîné après les actes de sabotage concertés contre la SNCF le week-end dernier. 20 personnes ont été arrêtées ce matin, 10 sont toujours en garde à vue. Elles sont toutes issues, je vous le disais, des milieux d'ultra-gauche. Aucun des suspects n'appartient à la société. Audrey Goutard, Mathias Barrois.
Le chef du commando a été arrêté avec ses principaux lieutenants dans ce petit village de Corrèze où le groupe avait établi son QG. Au même moment, à Paris, étaient interpellés sa compagne et ses parents. En tout, 7 hommes et 3 femmes âgées d'une trentaine d'années. Une opération éclair, car les policiers connaissaient bien leur cible.
L'opération de ce jour a été rendue possible par le travail de renseignement qui a été effectué à ma demande depuis plusieurs mois par la direction centrale du renseignement intérieur.
Le groupe croyait opérer dans l'ombre. En fait, les enquêteurs étaient à ses trousses depuis le mois de mai et puis en ses déplacements. Par 2 fois au moins, les membres du commando ont été repérés rôdant autour des voies ferrées, sur les lieux même des sabotages. Selon les enquêteurs, ils auraient agi à 4 reprises sur les lignes nord, est et sud-est, bloquant quelques 160 TGV et des milliers de passagers. Un travail de pro, accroché au caténaire, ce fer à béton équipé d'un verrouillage. À son passage, le train l'accroche et arrache la caténaire. Et tout ça, réalisé à 7 mètres de haut, sur un câble de 25 000 volts. Comment le commando a-t-il pu élaborer un système aussi sophistiqué? A-t-il bénéficié de complicité? Des questions auxquelles les suspects placés en garde à vue ce soir vont maintenant devoir répondre.
On l'a entendu, la plupart des membres du groupe vivaient donc dans un petit village de Corrèze, à Tarnac. Qui sont ces militants qui ont basculé dans l'illégalité? Que sait-on d'eux? Le point avec Lionel Feuerstein et Zindine Boudaoud sur place.
C'est dans cette ferme à l'abri des regards que vivait la petite communauté libertaire. Une 10aine de personnes, des femmes et des enfants. Installés depuis 4 ans à Tarnac, 350 habitants, ces nouveaux voisins étaient parfaitement intégrés. 3 d'entre eux tenaient d'ailleurs la seule épicerie du village.
C'est des gens très honnêtes, très serviables, très gentils, qui ne s'occupent pas de personne du tout. Bon, on parlait politique, mais on parlait politique, on ne parlait pas d'aller mettre le feu partout. C'était pas la bande à Badère, ni les brigades rouges.
Mais certains des membres de cette communauté, au-dessus de tout soupçon, étaient suivis depuis longtemps par la police. Selon les enquêteurs, en mars 2006, certains d'entre eux participent aux manifestations violentes pour le retrait du CPE, comme ici à la Sorbonne. Un an plus tard, c'est à Rostock, en Allemagne, qu'on les retrouve protestant contre un sommet du G8. Tous appartiendraient à la mouvance anarchiste des ultras de gauche. Le chef du groupe interpellé hier a 34 ans. Il est issu d'un milieu aisé et a longuement étudié la philosophie. C'est lui qui aurait incité ses membres à passer à l'action radicale, notamment la semaine dernière à Vichy, lors de manifestations violentes contre le sommet sur l'immigration.
Mathieu Burnel, Julien Coupa, je vous regardais sourire en écoutant ça. Il vaut mieux sourire aujourd'hui, mais il y a des expressions assez frappantes dans ce commentaire à chaud, le soir même de votre arrestation à Tarnac. Aucun des suspects n'appartient à la société. Mathieu Burnel.
En fait, ce qui fait qu'on est venu à cette émission, c'est notamment apparu la semaine dernière, il y a 10 jours, un numéro de la revue Lundi Matin qui compile en fait la plupart de nos interventions publiques,
etc. Oui, j'allais y venir.
Et enfin, en fait, on a participé donc à la composition de cette espèce de best-of de notre expression autour de l'affaire. Et en le faisant, en fait, moi, j'ai pris la mesure de l'écart qu'il y avait entre ma propre perception aujourd'hui de l'affaire de Tarnac et ce qu'était ma perception au moment où on s'est fait arrêter. Et l'écart est assez saisissant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même moi qui suis encore mis en examen, dans mon esprit, l'affaire de Tarnac, je me dis, oui, bon, bah voilà, on a réussi à pas trop mal s'en dépatouiller, on a dézingué un juge qui était vraiment trop débile.
Oui,
bien sûr, bien sûr.
Il est parti en Polynésie.
En gros, nous-mêmes, on regarde ça comme un truc avec une espèce de relative distance, et on se dit, ah oui, quand même, c'était pas rien. Mais quand on se replonge dans les textes de l'époque, on se dit, merde, en fait, on rigolait pas du tout à ce moment-là. Il y avait parce que nous, on s'est fait arrêter, mais dans les jours qui suivaient, il y avait encore d'autres personnes qui se faisaient arrêter tout le temps, etc., etc. Et donc, en fait, ce qui est saisissant, quand on se replonge à l'époque, c'est que c'était vraiment pas de la rigolade. Et l'autre chose, moi, qui me paraît vraiment saisissante, c'est que là, les extraits que vous avez passés, parce qu'aujourd'hui, n'importe quel journaliste va vous dire, ah oui, quand même, il disait n'importe quoi, France 2, ah oui, le truc tapis dans l'ombre, tout le monde reprend les espèces de gimmicks de l'époque en les ridiculisant. Mais tout le monde, à ce moment-là, tous les journalistes reprenaient cette construction policière. Quand on voit aujourd'hui la manière dont l'antiterrorisme fonctionne, la manière dont, par exemple, on qualifie la plupart des gens qui se battent à Notre-Dame-des-Landes, et ben dans le fond, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez tous les journalistes qui font les gros malins aujourd'hui en disant là, ah bah oui, quand même, c'est vrai l'affaire de Tarnac, quelle blague, mais en réalité, tous les schémas narratifs, toutes les figures monstrueuses, aberrantes, etc., qui tendent toujours à dépolitiser et à enlever le sens de ce que les uns et les autres peuvent faire, eh ben, ce fonctionnement-là, il a absolument toujours lieu et il choque personne.
Alors, vous venez d'évoquer la raison pour laquelle vous êtes là tous les deux, c'est la parution effectivement de cette revue Lundi Matin papier. D'habitude, Lundi Matin, c'est sur le net tous les lundis matins, c'est votre revue en ligne. Là sont les textes et documents relatifs à l'affaire dite de Tarnac, un gros bouquin. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que cette affaire aujourd'hui, bon, elle amène à ce livre-là. Elle a démarré avec un livre que vous aviez publié en 2007 aux éditions de La Fabrique, L'insurrection qui vient. Et au fond, c'est l'importance du livre dans toute votre affaire, parce que l'insurrection qui vient, elle a été donnée par Alain Boer à son ami Frédéric Pinchenard, qui dirigeait à ce moment-là la police de Sarkozy, en disant « ce livre est important ». Et à partir d'un livre qui exprime des opinions qu'on peut partager, ne pas partager, qui sont des opinions radicales, il n'y a pas en principe de délit d'opinion en France, et surtout dans la publication des livres, à partir de ce livre, ce que disait Julien Coupa sur la fabrication d'un groupe, c'est là, c'est parti d'un bouquin où tout d'un coup la police s'est dit il y a une résurgence de l'ultra-gauche, donc le traumatisme d'Action Directe restant toujours dans les gènes de la police et de la société française. Il y a un danger. Donc à partir d'un livre, vous êtes devenu ce groupe.
Alors moi, en général, vous savez, tout part d'une lecture de Michel Alumari et d'Alain Bauer, une lecture de la société à ce moment-là, qui consistait à dire la gauche est, dans le fond, dans les choux, et en tout cas, n'arrive plus à capter le mécontentement social, on est après le CPE, et donc l'absence d'une gauche capable de capter et de récupérer va produire très certainement une radicalisation au sein de la jeunesse. Et à mon avis, cette lecture-là, en fait, ils avaient raison. C'est-à-dire que, de fait, aujourd'hui, les formes politiques de la politique classique ne parviennent plus à capter le mécontentement. Là où c'était aberrant, c'est d'imaginer que ce mécontentement, ils auraient pu réussir à le résorber en prenant 10 personnes plus ou moins au hasard et en leur tapant dessus. Donc, l'opération policière est absurde, mais la lecture générale d'une certaine faillite de la société, ça, par contre, c'est pas, à mon avis, c'est pas idiot, parce que, dans le fond, ça a été confirmé depuis.
Julien Coupa, à partir de ce livre L'insurrection qui vient, il y en a eu d'autres depuis, il y a sur la table votre analyse de la situation politique en France et dans le monde. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est normal au bout d'un moment qu'on fasse attention à ce que vous écrivez ?
En quel sens ?
En ce sens que, comme vous mettez en cause la politique, qu'elle soit de droite ou de gauche, l'intervention des forces de police dans les manifestations, en retour, quand on lit, quand justement les gens qui nous gouvernent lisent ces livres, il y a un retour de bâton. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au fond, vos théories écrites et publiées devaient entraîner forcément une réaction ?
En fait, je crois que la police et certains gouvernants nous suspectent de croire plus à ce que nous disons qu'eux-mêmes ne croient à ce qu'ils disent. Et c'est un soupçon très honorable, en tout cas pour nous.
On va écouter justement Jean-Claude Marin, le procureur de Paris. C'était toujours en novembre 2008 et il parlait de ça et il le prenait très au sérieux.
Ce noyau dur avait conçu dans la création d'une structure qu'ils appelaient la cellule invisible et qui avait pour objet la lutte armée. S'il n'a pas été démontré par l'enquête une organisation internationale autour de ces concepts de cellules invisibles, il apparaît à l'évidence des liens avec des cellules équivalentes agissant en Allemagne, avec d'ailleurs en Allemagne des dégradations similaires commises sur les trains, en Grèce, en Italie. Vous savez que les perquisitions ont amené la découverte d'un certain nombre d'éléments, comme des pinces coupe-boulon, comme des manuels relatifs à l'action violente, comme des guides sur le réseau. Enfin, ça n'est pas une preuve, mais c'est un élément de contexte supplémentaire. Le comportement en garde à vue de ces cinq personnes notamment, refusant de répondre à toute question, y compris pratiquement sur leur identité, sur leur cursus, sur leur implication bien entendu, le refus de se prêter à toute recherche de police technique et scientifique montre des gens déjà ancrés dans un parcours de marginalisation et d'opposition. Il n'est pas exclu que ce groupe ait envisagé des actions plus violentes et notamment contre les personnes.
Là, on voit que le ridicule ne tue pas puisque ce monsieur a été promu au plus haut poste de la magistrature française depuis.
Julien Coupa, Mathieu Burnel, donc je disais en 2007 l'insurrection qui vient, 2014 à nos amis, 2017 maintenant. Dans tous ces livres, vous écrivez tous qu'avec la situation telle qu'on la voit, qui est une situation socialement et économiquement grave, écologiquement aussi, ce qui est étonnant, c'est que la révolution ne vienne pas. Enfin, la révolution devrait être là. D'ailleurs, le titre du livre, L'insurrection qui vient, vous pensez qu'il y a les prémices.
Écoutez, Mathieu Burnel. Vous savez, vraiment, si vous vous remettez au moment de la parution de L'insurrection qui vient, moi je me souviens que le mot même d'insurrection, ça apparaissait comme un truc soit de jeunes ados un peu débiles, soit de vieux à côté de la plaque qui pensaient encore que la politique existait. Et quand même, force est de constater, enfin, il y a quand même eu des soulèvements dans à peu près tous les pays du monde. Et enfin, en France, il y a encore un an et demi, il y avait des centaines de milliers de personnes dans la rue et des dizaines de milliers de jeunes qui s'en prenaient quand même assez directement au symbole du capitalisme et tout ça. Ensuite, la question des prémices, moi, je pense qu'elle est un peu casse-gueule parce que, vous savez, je vais parler d'un truc un peu de pas de spécialiste, mais de gens qui connaissent vraiment cette histoire-là. Mais vous savez, il y avait un groupe qui s'appelait Socialisme ou Barbarie dans les années 60. Et ce qui est très très drôle. Très drôle, c'est que début 68, ils font une espèce de texte pour dire qu'ils vont se dissoudre, parce qu'ils disent, voilà, objectivement, les conditions du prolétariat, blablabla, ne sont pas réunies pour qu'il y ait une révolution, donc ça sert à rien, on verra ça plus tard. Et en parallèle, vous aviez les Situ, qui eux disaient, non, effectivement, les gens vivent dans une relative opulence, il y a la consommation, etc., mais le vide qui est produit par la société de consommation et par l'aberration politique va produire, en gros, un séisme existentiel. Je dis ça parce que c'est la commémoration de 68. Et puis là, de fait, les situationnistes ont eu raison. Il y avait mai 68 deux mois après. Et en fait, la question, c'est est-ce que la question révolutionnaire, est-ce que c'est une question, on va dire, purement matérielle, purement objective, avec des conditions qui devraient être remplies, ou est-ce que dans le fond, ça correspond, c'est déclenché par une insatisfaction qui est d'un tout autre ordre, qui a beaucoup plus à voir avec le sens même de l'existence. Et si on part de ce principe-là, franchement, les conditions existentielles pour la révolution, je pense qu'elles sont mais vraiment archi mieux.
En même temps, dans tous vos écrits, signer comité invisible ou signer des uns ou des autres, Mathieu Burnel, Julien Coupa, il y a aussi cette constatation que pour faire une révolution, il faut des corps, et vous écrivez, les corps sont devant la télévision. Voilà, il y a aussi le fait que, en fait, d'insurrection, il y a des petites émeutes, des manifestations qui dégénèrent. Mais...
On voit que vous en voulez plus, mais...
Non, c'est pas ça, c'est que... Surtout contre les forces de l'appareil de l'État, ce genre de manifestation de violence n'a guère de sens autre que se réjouir. Et vous écrivez beaucoup que ça réjouit, ça vous réjouit. Julien Coupin, on ne vous entend pas énormément. Mathieu parle tout le temps, vous n'avez rien à dire là-dessus.
Je suis quelqu'un de plutôt discret. C'est la seule explication.
Non, mais en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que parmi nous, vu que Julien a été dès le départ
le chef.
Voilà, c'est le chef, mais aussi que c'était lui dont tous les journalistes voulaient connaître la couleur du slip. De ce fait-là, on a jugé collectivement que il fallait évidemment pas alimenter ce truc-là. Et donc, vous savez, c'est toujours le problème de la spécialisation, c'est que très vite, on se retrouve à être un ou deux à dire d'accord, moi je veux bien aller répondre aux médias. Et ensuite, une fois que vous l'avez fait une fois, vous n'êtes pas trop mal sorti. Les autres disent si toi tu sais le faire, donc vas-y. Et ce qui fait qu'en fait, ça crée une espèce de spécialisation où certains sont plus à l'aise comme moi, et d'autres comme Julien qui a parlé deux fois à la radio sont pétrifiés à l'idée du gros truc en mousse rouge qui est devant son nez.
En même temps, il faut dire que je n'ai pas fait votre siège pour vous avoir dans cette émission.
Oui, bien sûr. Ah oui, non, mais
donc,
après...
il faut bien dire quelque chose si on y vient. Mais bon, on va mettre un peu de musique.
On voit bien qu'au fur et à mesure, des lois s'empilent les unes sur les autres pour devenir de plus en plus une espèce de magma et de conglomérat de textes qui sont de plus en plus liberticides. Le dernier texte, qui n'est pas une loi, mais enfin qui a quand même été pris au cours de l'été 2008, c'est cette circulaire sur la mouvance anarcho-autonome, dont on ne sait pas encore très bien ce qu'elle recouvre, mais qui en tout cas permet de pouvoir, sous couvert d'enquête préliminaire, remettre en examen. Mettre en garde à vue des personnes pour des raisons purement politiques ou qu'on soupçonne de pouvoir avoir des comportements dits dangereux. Donc ça, c'est effectivement extrêmement inquiétant.
C'est la voix de Dominique Noguer, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, avocate. C'était en 2009, depuis il y a eu bien d'autres textes. Mais c'est une analyse intéressante que beaucoup de juristes ont présentée. C'est que, au fond, ces politiques antiterroristes servent aussi essentiellement à surveiller les populations dangereuses. Michel Foucault avait déjà écrit là-dessus beaucoup. Est-ce que vous avez l'impression qu'en fait, les lois créent justement ce que vous appeliez tout à l'heure la nécessité de fabriquer des groupes aussi pour montrer que la loi correspond à une véritable menace, et ces menaces, en dehors du terrorisme dont on parlera peut-être, que la France a connu, le vrai, ça sert à museler les groupes dangereux.
En fait, on parle abusivement de lois concernant les lois antiterroristes parce que c'est des lois qui consistent les unes après les autres à mettre les services de renseignement au-dessus des lois. Et donc, quand une loi consiste à abolir toute limite légale, est-ce qu'elle mérite encore le nom de loi ? Il se trouve que l'une des rares choses qui présente de l'intérêt dans l'affaire de Tarnac, c'est que on a vu, nous, comme un espèce de florilège de l'ensemble des méthodes les plus inqualifiables dont l'antiterrorisme a le secret. Et c'est ça qui devrait aujourd'hui en être retenu. Il faut savoir que les mêmes forces qui font des faux PV, qui suscitent des témoignages sous X, des témoignages anonymes d'indics. Bon, bref, ces moyens-là sont aujourd'hui déployés, évidemment, sous prétexte de lutte contre le terrorisme islamiste, sont déployés, évidemment, à chaque petite flambée de contestation. Et on l'a vu pendant la loi travail, on l'a vu ensuite dans la contestation du cirque électoral l'année suivante. Ça a commencé quasiment avec la déclaration de l'état d'urgence, avec les manifestants assignés à résidence pour la COP21. Récemment, Julie Alix, qui est une des spécialistes les plus autorisées de l'antiterrorisme en France, a commis un article où elle décrit parfaitement l'usage qui va prévisiblement être fait des dernières dispositions antiterroristes. Mais à ce point-là, la question, c'est est-ce qu'il faut contester l'antiterrorisme ? À partir du moment où les méthodes de l'antiterrorisme ont diffusé dans la totalité des pratiques policières, alors la question, c'est celle des pratiques policières et non du seul antiterrorisme. Et ça explique certainement que certains manifestants aient cru bon d'adopter pour slogan « Tout le monde déteste la police ».
Alors, il y a eu, dès votre arrestation, et quand on a commencé à creuser un peu et à voir s'accumuler les problèmes dans cette enquête de Tarnac, il y a eu une mobilisation de beaucoup de gens qui ne partagent pas forcément vos idées politiques, mais qui, au nom d'une certaine idée de la justice, de la loi, sont montés au créneau. Il y a, on va écouter la voix de François Sureau, qui est un grand avocat au Conseil, et qui parle justement de cette habitude qui s'est infusée dans la société française d'accepter des lois qui manifestement réduisent le champ de nos libertés à tous.
C'est moins des lois particulières qu'un état d'esprit. Nous sommes, chacun d'entre nous, les gardiens de la démocratie politique. Et en réalité, ce que montre l'expérience récente, c'est que nous ne pouvons pas attendre de nos gouvernements de droite ou de gauche, de nos parlements, et même dans certains cas de la magistrature, et en particulier de la magistrature répressive, qu'ils se montrent des gardiens aussi vigilants que nous. Et précisément parce que nous sommes rentrés dans le combat antiterroriste, nous devons nous montrer particulièrement vigilants. Ça ne veut pas dire ne pas nous montrer particulièrement sévères. Le droit français permet des peines d'une extrême sévérité et permet tous les moyens d'investigation. Mettons-les en œuvre avec la plus grande rudesse, mais sans rien céder de ce qui nous constitue. La découverte douloureuse des 10 dernières années que nous venons de vivre, ça a été de voir la facilité avec laquelle ces principes cédaient chez ceux qui avaient la charge de les défendre. Ceux qui avaient été mes maîtres, ceux qui avaient été mes éducateurs, ceux qui avaient été ceux que j'admirais quand j'étais jeune, ceux qui avaient été Premier ministre, ministre, président du Parlement, président de la Chambre criminelle, vice-président du Conseil d'État, etc. En réalité, l'option policière est rentrée là-dedans comme dans du beurre.
Julien Coppa, Mathieu Burnel, quand on lit vos écrits, les vôtres et ceux de vos amis, on se rend bien compte que cette démocratie-là dont François Sureau parle ou dont d'autres peuvent parler, c'est pas votre tasse de thé. Vous pensez que c'est un concept assez vide de sens et que les lois et les pratiques policières trahissent sans cesse. Et pourtant, j'allais dire, c'est ce système-là qui est monté au créneau pour vous et qui a obtenu petit à petit la déqualification de terrorisme. La Cour de cassation a tranché. C'est assez paradoxal, avouez-le. Alors,
franchement, je pense que vous exagérez un peu. Parce que, en réalité, c'est pas ces gens-là qui sont montés au créneau et qui ont fait que ça a été déqualifié. La seule raison pour laquelle ça a été déqualifié, c'est parce que nous, on s'est battu bec et ongle avec les moyens qui sont les nôtres et qui sont pas des moyens ridicules, étant donné que, bah oui, on a fait des études, des machins, etc. Mais Imaginez-vous bien que si on s'était appelé Mohamed et Mustapha, jamais de la vie ces gens-là ne seraient montés au créneau pour la jolie liberté de je sais pas quoi et de la démocratie. Et d'ailleurs, et je pense que c'est ça dont il faut prendre la mesure, et encore une fois pour faire un peu de la retape pour notre revue, mais quand on voit qu'en 2008, dans la foulée du soutien à Tarnac, il y avait des collectifs de juristes et de philosophes qui se constituaient pour demander l'abrogation des lois antiterroristes. Par exemple, nous à l'époque, ça nous paraissait être un peu réformiste, pas très intéressant, mais aujourd'hui, ça serait absolument impensable et inimaginable pour quelconque intellectuel que de dire « je m'oppose à l'arbitraire de l'antiterrorisme ». Tout le monde s'en tamponne complètement. Et donc, il n'y a pas des gens qui, pour défendre la démocratie, ont fait ça. Parce que sinon, ils continueraient à le faire aujourd'hui pour l'antiterrorisme. Et donc, la raison pour laquelle on a été déqualifié de terreau, pour la raison pour laquelle ils n'ont pas pu tenir l'image du terroriste, c'est juste parce que finalement, on a réussi à faire que ça soit trop gros et que ça puisse pas coïncider. Mais c'est pas le bon vouloir et la gentillesse des gentils démocrates qui fait qu'on est sorti de la crotte. C'est pas vrai, quoi.
Et puis, il y a quand même une question d'opportunité. Évidemment, qu'il s'agit d'une manœuvre de la part aussi de la Cour de cassation et de la part de l'institution antiterroriste, même si le parquet a fait appel maniaquement jusqu'au bout pour obtenir le maintien de la qualification. De fait, ça a arrangé tout le monde qu'une affaire qui met à nu les mensonges, les techniques pour le moins borderline de l'antiterrorisme, sa disposition à faire défaut, que cette affaire soit jugée dans un cadre qui lui-même soit pas antiterroriste et qui soit un petit procès correctionnel sans grande importance, qui passe vite et qu'on n'en parle plus.
Et puis dans le fond, c'est comme ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que les pratiques policières, etc., elles sont toujours là et diffusent. Par exemple, il y a Antonin Bernanos qui, dans l'histoire de la voiture de police du Quai de Valmy, qui est en détention aujourd'hui, la raison pour laquelle il est en détention, c'est parce que la police a fait elle-même un témoignage anonyme pour dire qu'ils l'ont vu faire ceci ou faire cela. Et ça, c'est dans Tarnac, des trucs comme ça, on en a 50. Moi, mon hypothèse, plus ou moins, c'est que l'affaire de Tarnac, elle est absolument pas terminée, elle s'est absolument pas dégonflée. En réalité, elle s'est diffusée. C'est-à-dire, autant d'un point de vue policier, c'est-à-dire les moyens mis en œuvre contre des gens un peu comme nous sont toujours plus mis en œuvre, mais ils retirent le truc terroriste parce que ça a pas trop bien marché la première fois, mais ils le remettront le jour où ça les arrangera. Et d'un autre côté, les gens comme nous se sont aussi diversifiés et diffusés dans la société. Mais de fait, là, par exemple, Antonin Bernanos, qu'on salue s'il écoute la radio, qui est à la prison de Fleury-Mérogis, il a eu le malheur lundi dernier de répondre à une interview sur le site lundi matin, justement. L'après-midi même, l'administration pénitentiaire fouillait sa cellule, lui bloquait ses parloirs, etc., etc. Et donc, enfin, il faut vraiment, vraiment prendre garde à ne pas se dire, oui, bon, bah, finalement, il n'y a plus la qualification terroriste pour Tarnac. Hop, bon, bah, non. L'intérêt de l'affaire de Tarnac, c'est ce qu'elle révèle. C'est pas nous et les trois guignoleries qu'on dit à droite à gauche. C'est vraiment ce qu'elle révèle de la société en général. Et ça, je pense, ça n'a pas vraiment évolué.
Donc, si je vous entends bien, l'un et l'autre, Julien Coupa, Mathieu Burnel, au fond, vous sortez de ces 10 ans, enfin, vous sortez, je vous êtes pas encore sorti d'affaire, mais au bout de ces 10 ans de procédure, vous êtes renforcé plutôt dans ce que vous appelez vous rendre ingouvernable, dans vos derniers écrits montrent que vous continuez à théoriser ce mode de vie et de lutte. Rien n'a changé pour vous, Julien Coupa.
Ah non, mais tout a changé et c'est bien pour ça qu'il est important de continuer de penser, parce que précisément les conditions pour rester fidèle à soi changent. On nous répète à longueur d'année qu'être intelligent, c'est s'adapter, et c'est un peu le chapelet de la soumission contemporaine. Moi, il me semble que vivre, c'est se métamorphoser, et qu'en fait, c'est la condition d'une fidélité à soi et à ses propres promesses.
Mathieu Burnel signe les propos de Julien Coupa.
Ah oui, ouais. Je suis d'accord. Non, mais on est sorti de là avec beaucoup plus d'amis, encore plus d'amis qu'on en avait avant. Et ça, c'est vraiment important.
Bien, merci tous les deux d'être venus aujourd'hui. Je rappelle que vos livres précédents signés du Comité Invisible, c'est toujours aux éditions La Fabrique, et qu'on peut se procurer ce texte et document relatif à l'affaire dite de Tarnac, édité par Lundi Matin Papier.
C'est diffusé par les éditions La Découverte.
La Découverte. Merci à tous les deux. Au revoir.
Au revoir.
Eh bien, c'est fini pour l'humeur vagabonde de ce samedi, mais si vous le voulez bien, nous nous retrouverons dans une semaine aux environs de 19h20. J'aurai le plaisir de recevoir Arnaud Desplechin qui nous parlera de son dernier film, Les Fantômes d'Ismaël, qui sort en DVD. Mais bien sûr, France Inter continue, puisqu'après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Madame Julia Foyce et son Babel sur scène. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter.
Merci à vous, Cathy Névin.